Bonjour Julie!
Bonjour Maëlie, mais comment vas-tu?
Mais toujours nickel bien après Noël, c'est nickel, on a trop abusé et là on compense avec beaucoup de verveine, des mandarines et le reste des sablés, j'avoue. Donc c'est un excellent moment.
C'est un repas équilibré.
C'est un repas équilibré de se nourrir de thé, de mandarines et de sablés, j'adore. Voilà,
Magnifique.
ici il pleut et donc j'ai passé la journée à bouquiner avec du thé et des sablés et c'était exactement ce qu'il me fallait pour cet officiellement premier jour de vacances.
Magnifique. Je suis très fière de toi que tu mettes ainsi en pratique notre mantra d'avoir du plaid, du thé et du bouquin.
Il me semble que c'est ce que tu as fait aussi aujourd'hui.
Tout à fait, tout à fait. Ça a été une journée à la productivité intense. À un moment, comme ça, j'avais même mal aux jambes d'être trop assise, tellement j'étais loque.
Normalement, si tu bouquines sur le côté couché, ça compense un petit peu ça.
Bah ouais, mais il faut faire des rotations, il faut changer de côté.
Ça demande de l'énergie.
C'est très difficile.
Non, mais je veux dire, ça connecte nos neurones à fond. Je ne peux pas dire que c'est pas productif en fait, parce qu'au niveau productivité neuronale et tout, on est à fond.
Ah mais complètement, complètement. La plastie cérébrale de la lecture, tout ça, c'est moi.
Nickel. Voilà, je passe mon temps à dire aux anciens, vous rencontrez des gens, vous leur parlez, comme les gens ne sont pas des bouts de bois, vous pouvez pas prévoir tout ce qu'ils vont dire, donc ça vous fait bouger les neurones, au lieu de faire des mots croisés, parler à des gens, mais lire des livres, ça marche aussi.
C'est presque comme parler à des gens.
Absolument, les auteurs n'étant pas des bouts de bois, on ne peut pas prévoir tout ce qu'ils vont dire.
Et voilà.
Voilà. Donc, prémunissez-vous d'Alzheimer, lisez des bouquins, et a fortiori celui-là, qui consiste à beaucoup de gens qui parlent. Beaucoup de gens différents qui parlent de manière différente. Normalement, là, niveau plastique cérébrale, vous allez voir, on est au max.
Mais justement, Maïli, quel est ce bouquin dont tu vas nous parler aujourd'hui?
Oh non, mais c'est une transition digne d'animatrice de radio, mais un truc.
Je pense qu'il est temps qu'on ait un truc sponsorisé par France Inter, quelque chose de sérieux. On est chaud là, on est rodé, ça y
Nickel. Alors, du coup, je vais vous parler d'un bouquin. On va vous parler d'un bouquin que j'ai lu parce que c'était mon tour cette fois-ci. On va vous parler de La Horde du Contrevent, un bouquin de Damasio. Un bouquin qui m'a été conseillé il y a fort longtemps et offert il y a fort longtemps. Et comme tous les bouquins qui m'ont été fortement conseillés, j'ai mis 10 ans à les lire.
Ah, c'est toujours ça, c'est le trac.
Ouais, exactement. Et on en parlera après. J'ai mis beaucoup de temps aussi parce que j'ai essayé de le lire plusieurs fois et que les premières pages sont tellement reloues que c'est difficile.
Soyons honnêtes, hein, voilà, on est transparente avec vous.
En fait, c'est pas que c'est relou, c'est que tu sens que ça peut te plaire, mais que ça va être compliqué. Et que ça va
D'accord,
te
ouais.
demander un petit truc de concentration en plus.
Il y a un seuil d'effort élevé
C'est
à
ça.
franchir.
Une fois que tu as lu le premier chapitre, ce qui te prend à peu près 40 minutes, hein, faut bien dire ça, 50, une fois que tu as lu le premier chapitre, c'est bon. Après, ça peut filer. C'est pour ça,
Ok.
là, mon Kindle m'indiquait genre 13 heures de lecture de bouquin. Finalement, voilà, j'en ai mis un peu moins. Parce que je l'évite. Mais sur mon premier chapitre, le temps ne faisait qu'augmenter. C'est passé de 6 h à 13, je n'ai rien vu venir.
Le Kindle qui te juge, tu sais. Oh, celui-là, il va te falloir 3 semaines, meuf. Oh, t'es mal barre. Oh là là, tu veux pas lire autre
Est-ce que ça tient dans la nuit?
Écoute, on veut pas te dire quoi faire, mais oh là là, oh là là. Mais elle a réussi, mesdames et messieurs, pour notre plus grand plaisir.
C'est ça, fallait bien un podcast pour que je puisse me dire, tu le lis maintenant, tu arrêtes de repousser ce premier chapitre. Après, ça
Mais
file.
c'est ça, c'est une bonne motivation, hein, mine de rien, de se dire qu'on va devoir en parler dans l'émission.
Non mais on le sait qu'on a lancé ce podcast pour ça, pour lire les grands
Complètement.
classiques qu'on veut absolument lire et qui sont sur notre liste d'attente. Entre deux feel good et trois mangas, on a des bouquins qu'on veut absolument lire et on vous les présente. Voilà.
Magnifique. Est-ce qu'on pourra peut-être dire un mot sur le bouquin en général avant d'ouvrir le feu sur ce que ça raconte?
Hey, vas-y!
Parce que, chers auditeurs, vous le savez peut-être, mais La Horde du Contrevent de Alain Damasio, c'est pas n'importe quoi non plus. C'est déjà considéré comme un classique alors qu'il est pas si vieux.
Genre vraiment pas si vieux en fait.
C'est ça, il a été publié en 2004.
Et il est déjà dans les gros classiques depuis genre 10 ans au moins quoi. Enfin, assez rapidement, hein.
Oui, il a très rapidement atteint un statut élevé assez culte, de par sa complexité. De par ses bizarreries, ses particularités qui en font une œuvre qui est relativement unique. Il a été publié aux éditions de la Volte, alors qu'il y a une maison d'édition dont Alain Damasio a participé à la création.
Voilà, si tu veux te faire publier, crée ta maison d'édition, ça passe.
On n'est pas en train de dire qu'il faut prendre forcément ce genre de raccourci, mais ça aide, ça aide. Le comité de lecture peut pas te refuser si t'es dedans.
Paye ton raccourci, quoi. Écoute, moi j'avais envie de publier un coup.
C'est ça.
Je vais créer une maison d'édition et je vais faire mon livre de A à Z.
Des éditions pleines de tes bouquins.
Suis sûre que ça passe.
Ah, écoute, on pourrait. Si t'as 30 000 balles dont tu sais pas quoi faire, y a moyen de moyenner.
Je vais songer à m'acheter une maison avant.
Non, franchement, c'est surfait, les maisons. Tu dois tout le temps les réparer, les repeindre.
Alors qu'une maison d'édition,
Eh,
la
voilà.
subtilité, les gars.
C'est ça. J'ai même pas fini de tapisser toutes les pièces de ma maison que je me rends compte que le papier peint que j'ai posé dans les premières pièces, honnêtement, il faudrait déjà le refaire.
Même.
C'est pas relou, ça, en
C'est
vrai?
hyper relou.
N'achetez pas de maison. Bref, publié en 2004 par La Volte. Il a été publié comme un livre-objet qui est apparemment un truc que La Volte fait assez régulièrement. Donc, il était vendu initialement avec un CD qui lui faisait office de bande-son.
Parce que le mec est pas complet dans ce qu'il fait.
C'est ça. Alain Damasio, c'est un peu un mec qui est vachement touche-à-tout.
Donc il écrit un bouquin et il fait un CD pour aller avec le bouquin en même temps.
Bah, c'est ça. Parce que sinon, au fond, les gens seraient susceptibles d'écouter genre 10 heures en même temps qu'ils lisent son livre. Et d'avoir un truc nul.
Oui.
Ça n'irait pas. Inacceptable.
Alors disons, pour avoir essayé Spotify en même temps, il faut quand même un peu d'espace pour te concentrer sur les mots du bouquin. Et peut-être que la bande-son eût été intéressante. Mais il a préparé une bande-son de combien de dizaines d'heures, les gars?
Ah ben je sais pas, tiens, je me suis pas renseignée. Je pense que c'était pas en permanence, c'était plus par chapitre, genre t'avais un truc et puis tu l'écoutes, c'est un peu l'ambiance de tout le chapitre.
J'écoute en boucle.
Mais t'es Voilà, tu l'écoutes en boucle ou juste une fois, t'essaies de le retenir, ou je sais pas trop, honnêtement. Si quelqu'un a écouté la bande son en même temps, il y a Maëlie qui danse la Macarena. Je ne sais pas quoi faire, chers auditeurs. Envoyez de l'aide.
Vas-y, dis que je danse mal.
Ah non, non, j'adore. Le bouquin a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2006, qui est quand même un prix assez important dans le monde francophone. Il devait faire à la base partie d'un triptyque, mais ensuite Damasio a préféré écrire d'autres trucs. C'est le deuxième roman de son auteur, si je ne dis pas de conneries. Oui, c'est
Oui.
ça, deuxième roman de son auteur, qui s'est vendu à peu près 400 000 exemplaires à l'heure où nous parlons,
C'est tout.
ce qui est très honorable.
Ah bah pour un bouquin, oui, hein. Pour un bouquin francophone, parce qu'on est sur un auteur local.
Et oui, il y a ça aussi, puisque souvent quand on voit des chiffres, c'est des chiffres américains, donc avec un beaucoup plus gros lectorat, mais pour un auteur francophone, 400 000 bouquins, c'est vraiment très honorable.
Voilà, et je dois bien le dire pour les autochtones, Damasio est un auteur lyonnais.
Ah oui, c'est
Mais
vrai, il
oui!
est de chez toi, c'est un
Parce que moi, je
local.
l'ai croisé dans le bus après ça et tout. Eh, ça pète.
Eh, big up Lyon. C'est un livre qui a reçu des critiques très polarisées dans son ensemble. Soit c'est une œuvre qui est ambitieuse, qui a un génie de ouf, qui est novatrice, qui est incroyable, soit c'est masturbatoire et prétentieux et prise de tête. On vous laissera seul juge. Alors, Maëlie, tu pourras nous donner ton ressenti personnel. J'imagine qu'il y a peut-être un petit peu des deux.
Moi, me concernant, il y a un petit peu des deux, ouais.
Niveau adaptation, alors il a été assez peu adapté dans l'ensemble. Il a eu une adaptation en BD chez Delcourt, qui est l'adaptation officielle maintenant, où il a créé énormément d'œuvres qui lui sont un peu parallèles, un peu autour d'eux, un peu à la manière d'eux, en plus de fangame. Il y a eu aussi une fan dramatisation au théâtre, qui devait être assez fun. Mais les adaptations pure et dure, on est vraiment juste sur la BD. Et je vais juste vous dire un mot très rapide sur Damasio, parce que j'ai pas trouvé une foule d'infos sur lui non plus, mais il est né en 69 à Lyon, c'est un auteur d'imaginaire et d'anticipation politique, il a fait une école de commerce, il a publié son premier roman à 30 ans, ce qui n'est pas si jeune finalement. Enfin, non pas que 30 ans soit vieux, mais voilà.
C'est pas la reconversion pro, mais
C'est ça, mais il a pas non plus commencé à écrire à 17 ans des romans en cachette sous son lit.
peut-être que celui-là lui a pris 17 ans d'écrire ceci dit, mais
C'est pas impossible non plus. Je crois savoir qu'il a commencé à l'écrire en fait un peu son premier roman, il l'a commencé à l'écrire un peu en réaction à l'ambiance des entreprises et de son école de commerce justement, et du fait que tout ça lui convenait pas trop et qu'il se retrouvait pas dans ce monde-là, et qu'il était vachement plus politisé d'une manière qui est très différente. Il est très créatif, il produit des romans, il écrit des scénarios, il fait de la poésie, il fait plein de projets sur plein de médias, il est cofondateur d'un studio de jeux vidéo, il invente des néologismes, il fait de la musique, le mec fait tout. Il ne s'arrête jamais.
C'est ça, c'est un artiste à temps plein.
C'est cool. Il a un petit côté ermite, de ce que j'ai compris. Il aime bien s'isoler longuement pour écrire. Celui-ci, il l'a écrit en Corse, dans un contexte où, si j'ai bien compris, il y avait du vent. Alors, n'ayant jamais mis les pieds en Corse, j'en ai aucune idée, mais je le crois sur parole.
J'imagine que c'était au milieu de la mer ou en haut d'une montagne, il y a moyen.
Voilà, il n'y a rien. Si vous êtes Corse, chers auditeurs, dites-le-nous, parlez-nous de votre vent préféré.
Est-ce une strige, une brise, une bourrasque, un furent?
Tout est possible, dites-nous, dites-nous. Et il est intéressé enfin par le transhumanisme, la politique, la technologie, les impacts de la technologie, la philosophie. Les interviews m'ont donné l'impression de quelqu'un qui aime s'écouter parler. Mais pas forcément mal, juste, ah ouais, c'est le mec, tu lui dis bonjour, il est susceptible de te répondre 8 lignes. Ok, eh ben écoute, good for you, Alain Damasio.
Oui, c'est quelqu'un, il me semble, qui est réputé comme étant plutôt volontiers dans l'échange et dans le contact, enfin plutôt d'un contact agréable, plutôt en recherche de liens sociaux là-dessus, mais effectivement, bah du coup, peut-être quelqu'un qui s'étale.
C'est ça, c'est ça. C'est vrai que en interview, c'est facile de confondre juste le fait d'être bavard et le fait d'aimer s'écouter parler. Et t'as raison, c'est peut-être le premier, et c'est moi qui suis
Non,
d'une
non, mais.
médisance sans
Non,
limite.
bah, je pense qu'il y a vraiment les deux versants qui sont possibles, mais c'est un peu comme les deux lectures de son livre possibles, quoi.
Oui, tout
Enfin,
à
de toute
fait.
manière, quand on le lit, on voit bien qu'il aime les mots, hein.
Effectivement, il a l'air vraiment féru de mots et de linguistique et de structure de phrases et de, enfin vraiment, le mot écrit ou peut-être même le mot parler.
Oui.
Donc voilà, c'est un peu ça le contexte du bouquin. C'est une très grosse œuvre écrite par quelqu'un qui adore l'anticipation, la réflexion, la politique, la philosophie.
Et c'est toutes des thématiques qu'on retrouvera dans ce bouquin.
Ben justement, Maëlie, est-ce que tu aimerais ouvrir le feu avec de quoi ça
Oui.
raconte?
Alors, tu parlais tout à l'heure de la forme et d'une forme qui est assez spécifique. Et je pense qu'on peut en parler en premier parce qu'en fait, vraiment, la forme va vraiment jouer sur la première approche de ce bouquin. Alors, déjà, il y a 701 pages sur la version poche. Et ces pages, alors pas en Kindle, mais en bouquin, elles sont numérotées à l'envers. C'est-à-dire que ça commence à la page 701 et puis après, ça décompte jusqu'à zéro, quoi.
D'accord, très bien.
Voilà. Ce qui est novateur, bon, ce qui joue pas des masses sur la lecture, mais ce qui est intéressant parce que ça nous donne vraiment l'idée d'un décompte vers un but.
Oui.
Et en fait, on a l'idée dedans d'un groupe qui va vers le but final poursuivi depuis très 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 longtemps.
OK.
Voilà. La grosse particularité du livre, pour le coup, c'est qu'on a différents points de vue qui s'enchaînent, mais vraiment qui s'enchaînent sur la même action. C'est-à-dire qu'en fait, on a le déroulé de l'action au fur et à mesure, mais dans une continuité, des fois, avec plusieurs points de vue qui s'enchaînent, plusieurs personnes qui vont parler, mais qui vont narrer, et donc qui vont narrer avec leur personnalité propre.
Bien
Et en
sûr.
fait, ces personnes vont pas être nommées en tant que narratrice, narrateur, de base. C'est-à-dire que chacun a un glyphe. Donc, par exemple, le meneur, ça va être un oméga, par exemple. Le prince, ça va être le pi comme en maths, pour la couronne. En fait, chaque personnage est désigné quand il narre par son glyphe. Et on comprend que plus tard que ces glyphes, en fait, ils correspondent à leur blason personnel qui est lié à leur fonction dans le groupe, dans la horde. Donc, par exemple, le prince, il a un pi parce que ça représente sa couronne. Par exemple, la soigneuse, elle a deux parenthèses avec un point au milieu, ce qui fait référence à quelque chose de l'ordre du sein maternel ou quelque chose comme ça.
Pourquoi faire subtil?
Tout à fait. On a le scribe qui a une parenthèse, une ouverture de parenthèse, ce qui va correspondre à la forme de sa plume.
D'accord,
Voilà. Et en fait, chaque glyphe va correspondre à ça. Une fois qu'on s'y est fait, ça passe.
oui.
Mais du coup, bah, on va avoir la glyphe qui va nous dire que c'est tel personnage qui narre. Et après, faut prendre en compte que c'est la pensée de tel personnage qui a pas été nommé. Donc, il faut se rappeler qui parle. Ils sont nommés dans le texte, mais du coup, ils sont nommés par leur nom et pas par leur glyphe.
D'accord.
Voilà, et on a un glossaire, on a une liste des personnages dans les premières pages du livre ou en marque-page, quand on n'a pas perdu le marque-page, n'est-ce pas? Et donc on voit qu'il y a genre 25 personnages, donc sur le début ça peut être décourageant quand on se dit « Oh la vache, il va falloir que j'en retienne 25 comme ça
Ok, oui.
voilà. » Et que je les différencie par leur glyphe, et Du coup, ça peut dégoûter un peu de la lecture dans les premières pages, dans les faits concrètement. Wikipédia a fait une très bonne récap qui vient nous signifier qu'en fait, de fait, il y a 25 personnes qui sont désignées par leur glyphe, mais parce qu'il y a potentiellement 25 personnes qui vont faire partie de la horde. Donc, on a les glyphes pour chacun. Après, toutes vont pas être narratrices. Et au niveau de la narration, on a quand même, je crois qu'il disait, il y a 500 prises de narration différentes, quelque chose comme ça. Et sur le bouquin, il y en a genre 150 pour une personne, et en fait, il y en a 4-5 qui se répartissent la très grande majorité de la narration,
D'accord,
et
oui.
après, il y en a qui interviennent un peu par moment.
D'accord, oui. Donc tu prends assez rapidement en main.
Oui, finalement, tu le prends en main. Finalement, ça se fait bien, et puis, une fois qu'en fait, moi, ce qui m'a permis de capter, ça a capté un peu plus mon attention, c'est qu'on a le Golgoth, le traceur, le chef un petit peu de la horde, qui est une espèce de, je veux dire, Golgoth, il s'appelle Golgoth, ça lui va très bien, voilà, c'est un Golgoth, une espèce de gros bourrin, et il pense comme un bourrin, il parle comme un bourrin, et en fait, du coup, de voir la narration vraiment changer d'un extrême à l'autre, au moment où il prend la parole pour la première fois, et ben, ça permet vraiment de se mettre dedans et dire, ah oui, c'est ça le concept, et du coup, on s'y retrouve mieux.
D'accord, très bien, ok.
Voilà. En fait, c'est un univers qui va se clarifier au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on rentre du départ dans une action, mais dans une action dont on comprend pas grand-chose, dont on comprend pas trop les tenants et les aboutissants. Et en fait, au fur et à mesure, ça se clarifie et on rentre assez vite dedans et l'univers devient un peu plus palpable et on voit petit à petit ce qui s'y passe. Mais en fait, parce que tous les personnages n'ont pas tous les tenants et aboutissants à chaque fois. Et puis les personnages, ils mûrissent, et puis les personnages, ils apprennent des choses au fur et à mesure. Et il y a vraiment une grosse partie du concept du bouquin et de la horde en elle-même, qui est que le groupe tend vers un objectif, mais que pour atteindre cet objectif, il doit pas tricher, il doit pas prendre plein de moyens qui pourraient lui faciliter la tâche. En fait, il doit se battre et potentiellement risquer de mourir pour mûrir.
D'accord.
Parce que, donc, cet objectif, voilà. En
Quel
fait,
est-il,
quel
Maïlis?
est-il? Alors, faut savoir que on est dans un monde qui est traversé par les vents, qui est traversé tout le temps, de toutes parts, par des vents, dans tous les sens. Et on a une
Ok.
société qui cherche à fonctionner par cette contrainte. Donc, on a 9 sortes de vents
D'accord.
qui sont pas vécus par tout le monde, c'est-à-dire que nous, notre groupe, quand on commence le livre, il connaît 6 vents. Et il y a différentes intensités. T'as des bourrasques, t'as des brises, t'as des tempêtes, et il y a l'énorme furvent qui fait s'effondrer les murs et les maisons.
D'accord, ok.
Donc il y a plein de types de vents, et les populations, on a un peu 3 gros types de populations. On a les abrités qui vont construire des villes sédentaires, en fait. Il y a un côté un peu péjoratif dans ce terme d'abrité. Mais c'est des villes sédentaires. Alors il y a des plus grandes villes avec un côté un peu noble, un peu. Mais il y a aussi plein de villages et plein de villages qui vont être un peu plus agricoles, pêcheurs et tout, mais qui potentiellement vont être dévastés par les vents. Et là où on est au début, quand on commence le livre d'ailleurs, notre horde s'est abritée un petit peu derrière dans un village au niveau d'un derrière un mur et tout, et ils sont en train de se décider de s'ils vont traverser ou pas un bout de désert, ce qui conduirait potentiellement très potentiellement à une mort certaine, ce qui est une énorme prise de risque. Et en fait, ce qui est dit, c'est qu'il faut absolument y aller, quitte à prendre le risque, parce que concrètement, le vent qui va arriver va démolir le mur et que le mur va s'effondrer sur le village, mais que le village n'y a pas forcément en tête, ou qu'ils en prennent le risque en tout cas, mais que en fait, ces abris, ça à côté, ils renvoient beaucoup les abrités à quelque chose d'un peu lâche, en fait.
D'accord, ok.
Voilà, d'un peu lâche et finalement qui veut de la stabilité, mais qui va être un peu précaire au fond.
D'accord, très bien.
À côté de ça, on va avoir des nomades qui vont pas mal se déplacer dans des espèces de bateaux à sable, à sable, plus ou moins technologiques.
D'accord.
Voilà, mais du coup là-dessus, on va avoir des peuples. Voilà, on va avoir des peuples qui se basent là-dessus, on va aussi avoir des pirates, on va voilà, avoir des brigands et potentiellement bah, ce monde est peuplé de gens qui se déplacent au gré du vent ou contre le vent notamment.
D'accord, très bien. Et au niveau géographique, tous ces gens sont sur la Terre?
Tous ces gens sont sur la Terre, et bah c'est difficile à comprendre en fait. C'est-à-dire que sur les bateaux, des moments, en fait, ils jouent beaucoup avec le vent. C'est-à-dire des fois ça va passer par-dessus le vent, mais globalement oui, ils sont tous sur la terre ou sur le sable ou pas trop sur l'eau.
D'accord, ouais, j'allais dire, y a pas d'océan, enfin, si tu mentionnais des pêcheurs, donc j'imagine qu'il y a des
C'est
côtes.
ça, il y a des lacs et tout, mais bah du coup de la même manière, il y a des siphons, il y a des crônes, enfin il y a pas mal de dangers aussi au niveau de l'eau.
D'accord, oui, très bien.
Mais du coup on le verra. Mais en tout cas, même les peuples nomades, même les peuples plus sédentaires vont aussi beaucoup jouer avec vont aussi beaucoup jouer avec l'air, avec des cerfs-volants, avec des éoliennes, ce genre de choses. En fait, l'air et le vent est tellement omniprésent qu'il s'adapte avec tout le temps.
D'accord, très bien.
Voilà. Et là-dessus, on a ce troisième groupe, on a la horde. Alors la horde, c'est 25 personnes et il y a une nouvelle horde qui est formée tous les 30 ans, qui est formée dans la capitale de ce monde-là. Et
D'accord.
en fait, c'est des très jeunes gens, c'est-à-dire qui commencent en général à 10-11 ans. Là, on comprend que c'est des gens qui ont commencé leur périple à 10-11 ans,
D'accord.
qui sont surentraînés, mais genre vraiment à la dure, je développerai un petit peu, mais vraiment salement, et qui vont en fait
OK.
affronter les vents à pied. Et quand on dit qu'ils affrontent les gens à pied, c'est qu'ils forment vraiment une horde, une espèce de groupe soudés qui doivent faire bloc, en fait, qui vont s'attacher les uns aux autres, qui ont plusieurs positions de défense, qui ont plusieurs positions d'attaque aussi, et qui vont devoir faire front, marcher, nager, ramper, pour aller atteindre le bout du monde, en fait, qui doivent aller atteindre ce qu'on appelle l'extrême amont. C'est un endroit où personne n'est jamais allé. Et c'est un endroit où on dit qu'il y a la source des vents, voilà, et qu'il y a la réponse à toutes les questions. Alors après, ils se demandent ce qu'ils feraient un petit peu justement s'ils trouvaient la source des vents, est-ce qu'ils pourraient arrêter le vent, et est-ce que ce serait hyper ennuyé si on arrêtait le vent et tout. En fait, dans tous les cas, personne n'est jamais allé là. C'est-à-dire que des hordes, ça fait 8 siècles qu'il y en a.
D'accord. Et cette source des vents, elle est perçue comme quelque chose de mythologique, comme une réalité physique climatologique. C'est
Et bah,
perçu comment? Plutôt comme une montagne à franchir ou comme une sorte de Graal à
c'est
trouver?
complètement Graal à trouver.
Donc il y a de la
Il
mystique.
y a de la mystique, mais il n'est pas à trouver nulle part, en fait. On a une idée de, il est au bout de la route. C'est pas on cherche n'importe où, c'est on continue au bout de la route. Il y a un traceur, c'est lui qui mène le groupe de la horde et qui continue la trace, en fait. Et il doit trouver l'endroit le plus droit pour y aller. Il doit percevoir le monde en face de lui pour y aller. Mais en fait, la difficulté, c'est que les vents sont tellement violents, sont tellement mortels qu'en fait, chaque horde potentiellement peut aller un peu plus loin ou pas d'ailleurs que la précédente, mais qu'en tout cas, jamais personne en 8 siècles n'a réussi à y aller. Justement, ils créent une nouvelle horde tous les 30 ans. En général, bah, du coup, il y a beaucoup des enfants des personnes qui étaient dans la horde précédente.
D'accord.
Voilà, donc c'est-à-dire que genre les gens de la horde font des enfants, que leurs enfants sont pris genre à 4-5 ans et sont élevés ensuite à la dure pour faire partie de la horde suivante et ils vont partir à 10 ans ils vont partir à 10 ans.
Ça nous fait une connexion avec Betty, avec le trauma multigénérationnel dont on parlait.
Ah mais complètement. Mais
OK.
complètement. Ah, il y a un truc un peu de destin. Donc eux, notre groupe là, ils ont commencé à 11 ans pour ceux qui sont dans le groupe depuis le début, et ils font bloc depuis 28 ans. Les mecs, ça fait 30 piges qu'ils sont ensemble. Pas que les mecs d'ailleurs, parce qu'il y a des mecs et des nanas.
D'accord.
Alors ils ont été rejoints par d'autres personnes. Il n'y a pas que le groupe initial. Il y en a quelques-uns qui sont des personnes clés parce que bah, le meneur, le Golgoth, son père était le 8e Golgoth et lui il est le 9e Golgoth. Voilà, le prince, pareil, son père était dans le groupe d'avant, et il y en a 3-4 dont les parents étaient dans le groupe d'avant et qui sont là depuis le début. Il y en a qui sont arrivés plus tard, qui sont arrivés il y a 15 ans, qui sont arrivés il y a 5 ans, et qui font partie intégrante du groupe.
D'accord.
Mais on comprend qu'ils sont aussi dans le groupe parce qu'il y a des gens qui sont morts. Et c'est raconté presque de manière un peu. En fait, on comprend que ça fait partie du quotidien, la mort, que machin. L'autre jour, il a pas eu de chance. Il y a un chariot qui lui est tombé dessus, ça l'a décapité.
Ah bah
Voilà.
oui, c'est pas de chance, c'est sûr.
C'est ça. Et quand il passe le désert, et ben, il trouve des cadavres et c'est raconté. En fait, ils expliquent vraiment qu'il faut pas qu'il y ait un bout de peau qui soit accessible au vent et au sable. Qu'un mec, clairement, il est étouffé avec ce qui reste de son menton. Voilà. Que potentiellement la mort est très 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 présente et très 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 violente.
D'accord, ok.
Et qu'elle touche tout le monde.
Ok.
Et qu'elle touche tout le monde, ils arrivent dans un village qui a dû lutter contre le furvent, justement, et en fait, tous les hommes qui ont essayé de protéger le village, et bah, il en reste pas grand-chose, et en fait, ils débouchent un puits où il y a tous les enfants et les femmes et les grand-mères qui étaient enfermés, le puits du mètre de profondeur. Alors là, ils arrivent à temps et tout le monde est en vie, mais bah, concrètement, le puits était recouvert de sable et personne n'aurait pu autrement.
Ouais, d'accord.
autrement les en sortir. Et il y a vraiment un truc de, en fait, à part vraiment les grandes villes où il y a des grandes digues, où il y a des grands paravents énormes et des immenses murs en marbre, potentiellement tout le monde est très précaire.
Ok. Et est-ce que la Horde a un statut spécifique dans l'esprit des gens?
Alors c'est un mix des deux. En fait, la Horde est très connue parce que du coup, ça fait 8 siècles qu'il y a des Hordes, qu'il y a des Hordes qui se relaient et qui sont accueillies dans les villages.
D'accord.
Voilà, donc ils sont admirés. Et puis en fait, on comprend qu'ils se déplacent à pied, qu'il y a quelques bateaux qui font des relais, qu'il y a probablement des oiseaux qui font des relais et tout. Mais en fait, la communication avec les villes, potentiellement, tout se joue en années, puisque en années, en mois. Enfin là, il y a des trucs qui
D'accord,
sont à
ouais.
4 ans de marche, à 6 mois de marche. Donc, les nouvelles de leur famille, elles sont un peu, voilà, sont un peu...
Ouais, bien
Mais
sûr.
du coup, la Horde, elle a un aspect très mythique. C'est un peu des héros et des héros courageux, impressionnants. Et à la fois, ils passent aussi des fois pour des cons qui font tout à pied, qui rampent et qui meurent. Alors que maintenant, il y a des bateaux qui existent et qu'il y a une technologie qui avance face à Furvent.
D'accord, ok, oui, mais que eux n'utilisent
Mais
pas,
que eux
justement, parce qu'il y
n'utilisent
a
pas.
cette idée de maturation, c'est ça?
Exactement. Et puis les bateaux ne sont pas allés en extrême amont à l'heure actuelle, parce qu'en fait, il y a des passages qui, même pour les bateaux, sont complètement inaccessibles. Mais il y a un peu
D'accord.
cette idée de on est en train de risquer notre vie pour quelque chose que peut-être ces bateaux atteindront avant nous, alors que ça fait 8 siècles qu'on essaye, quoi.
D'accord, oui, ok, donc il y a un peu un exercice de futilité aussi, quelque
Complètement,
part.
il y a une grosse, grosse, grosse recherche de sens. Et puis il y a une idée de temps, puisqu'en fait c'est des gens qui sont des êtres humains, donc qui potentiellement finissent par mourir. La 34e horde, c'est des gens qui sont... La 33e horde, donc celle qui était avant eux, puisque c'est la 34e, la 33e horde, c'est celle de leur père. Et elle s'est arrêtée à un endroit où potentiellement, où a priori c'était impossible d'aller plus loin, et elle s'est arrêtée à 4 ans de marche de là, donc ils savent que dans 3-4 ans, ils les verront. Mais ils savent aussi qu'ils ont 3 ans d'avance sur eux parce qu'ils se sont moins arrêtés, parce qu'ils ont rampé, parce qu'ils ont marché, donc ils sont au même point 3 ans plus tôt, quoi, dans leur vie. Mais s'ils veulent atteindre l'extrême amont, ils peuvent le faire que sur le temps de leur vie. Donc voilà, il y a quelque chose de c'est le but de leur vie, les gars.
Ok, ouais.
Voilà. Alors c'est une horde, là, celle-là, la 34e, c'est une horde qui est décrite partout comme très spéciale. Alors au début, on nous vend un peu que c'est la meilleure. En tout cas, que c'est celle qui pourrait réussir là où toutes les autres ont échoué. Et en fait, ce qu'on comprend petit à petit, c'est que c'est pas la plus forte physiquement, mais ils disent que c'est la plus soudée.
D'accord.
Voilà. Alors, ce qu'on voit petit à petit, c'est qu'en fait, il y a plein de dissensions et que potentiellement, il y a plein de gens qui ont du mal à se sentir que, par exemple, le golf de Goth, il est extrêmement machiste, que tout ce qui est de la psychologie, du soin et tout, mais que dalle de rien du tout, c'est mort. Que tout ça, c'est inutile, qu'il y a chacun qui a des personnalités qui sont assez propres, qui en a, qui ont des rapports physiques entre eux, que ce soit justement par relations très intimes ou juste parce qu'ils sont collés ensemble tout le temps depuis 28 ans.
Oui, ça crée de la
Et que de temps en
proximité.
temps, faut se tenir chaud, quoi.
Bah, c'est voilà.
Voilà, mais il y a quelque chose de très fort, mais aussi dans les conflits des fois, mais effectivement, on a un truc de très soudé de... Ils sont liés par la survie, avec ce que ça peut impliquer de conflits et d'horreurs, mais ils sont liés par la survie et ils se complètent pas mal. Et en fait, on comprend qu'il y a un certain nombre de ces membres qui ont été habitués à pas être les meilleurs. C'est-à-dire que notre meneur Golgoth, son frère, qui avait appris, d'après ce que j'en ai compris, qui avait un an de plus que lui, était le meilleur, était l'aîné, était le génie, et qu'il est mort, tué par leur père à 6 ans. Le père l'a foutu devant un Furvent, et lui est resté abrité, a foutu la tête du petit, du Golgoth, contre la vitre pour qu'il regarde bien, et il a vu son frangin se faire dézinguer, dépiauter par le vent de manière absolument atroce. Donc il est très traumatisé par tout ça, évidemment. Mais en tout cas, on a l'idée
Oui.
de lui, c'était le deuxième meilleur. C'est même pas lui qui était prévu pour remporter l'épreuve, parce que c'est une épreuve qui désigne qui va faire ça.
D'accord.
Voilà, mais qu'en fait, concrètement, comme il a tué les deux autres qui se présentaient, il en restait trois, il a tué les deux autres, donc forcément, il a réussi son truc. Après, il avait une épreuve de force et il a réussi, pas par son intelligence, mais par sa force. Voilà, on a le scribe. Pareil, qui a pas tendu la main à quelqu'un qui était meilleur que lui. Et en fait, on a un peu l'idée de, il y en a aucun qui était le meilleur dans ce qu'il faisait. On a la feuleuse, c'est celle qui fait du feu par vent, par pluie, sur l'eau. Elle faisait du feu partout. Voilà. Mais normalement, c'était son père qui faisait ça à elle et qui voulait pas transmettre ça à une fille. Et sa mère a absolument tenu. Et de fait, elle fait super bien ça. Mais voilà, il y a l'idée de plein de personnes qui se sentaient pas forcément légitimes pour ça, qui sont pas les meilleurs, qui sont pas les plus fins, mais qui du coup se sont tellement habitués à se battre pour y aller jusqu'au bout que potentiellement ils peuvent y arriver. Non pas parce qu'ils sont sûrs de le faire, mais parce qu'ils perdent jamais espoir et qu'ils se battent pour.
Ok.
Donc c'est plutôt intéressant.
Mm-hmm.
Et on a des styles de pensée voilà, très intéressants. On a des personnages qui ressortent un petit peu plus. Donc on a donc notre traceur, celui qui fait la trace, celui qui détermine où on va, qui va déterminer les positions aussi, qui est donc Golgoth, qui est désigné par un oméga, et qui lutte souvent, et c'est une espèce de gros barbare, de grosse brute, qui a été amplement traumatisé dans son enfance. Et, voilà, n'est pas empathie, on est un peu limite.
Ouais, voilà. Ouais, ouais.
En fait, c'est lui, la Horde. C'est le 9e Golgoth, et c'est lui qui représente la Horde, c'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent mourir, mais que globalement, en fait, sans lui, tout le monde est mouru.
D'accord, ok, très bien.
Voilà. On a le prince, qui s'appelle Pietro, et qui est, en fait, il veut se désigner comme une espèce de prince au cœur noble, c'est-à-dire que son père, qui était prince aussi de la Horde précédente, qui est prince aussi de la Horde précédente, lui a bien transmis que concrètement, le seul statut, c'est celui qu'il pourrait acquérir et qu'il pourrait rien hériter de même de ses parents. Et donc, il veut pas aller dans de la facilité, donc il essaie toujours d'aider les gens. Et c'est quelqu'un de très doux et très agréable avec tout le monde, et il fait beaucoup de liens au sein du groupe. On a le scribe, qui fait partie des gros narrateurs.
Il y a une certaine cohérence.
Oui, c'est tout à fait. Et qui est quelqu'un d'assez émotif et d'assez doux et qui est un peu en lien avec tout le monde. On a le troubadour qui est Caracol. Alors lui, on en parle beaucoup. Des fois, il narre, mais c'est surtout qu'il c'est un personnage très 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 important. Pour ceux qui ont lu Robin Hobb, l'assassin royal, qui est mon bouquin préféré, il fait énormément penser au fou.
D'accord, ok, un personnage ambivalent et complexe.
Un personnage ambivalent et complexe, son métier c'est troubadour. Et il a ce côté où il est un peu foufou, où il joue avec les mots, des fois ça sort de nulle part, c'est incohérent, et en même temps il va être hyper intuitif, et il va savoir des choses que personne ne sait, et des fois il va avoir des visions du futur, mais on sait pas trop quand et comment, et des fois il est hyper dans le vrai, et c'est un côté intéressant parce que c'est un peu comme si on avait accès aux pensées du fou dans l'Assassin Royal. Enfin, on a un peu plus accès à son intérieur que le fou dans l'Assassin Royal où on a plus un plan de l'extérieur, en tout cas au moins dans les premiers tomes. Voilà. On a un combattant protecteur qui est Erg et qui est une espèce de méga gros bourrin, mais qui est sympa et en fait qui a pour but de protéger les autres tout le temps. Voilà. Mais qui niveau dosage de sa force, en fait c'est juste « je protège ». Voilà, mais potentiellement il achève les gens. Après, à côté, on a une géomètre, on a des pirelliers, on a des oiseliers qui vont chasser, on a un éclaireur, on a des ailiers. Alors, on a Orochi qui est l'aéromaîtresse, donc elle aussi qui va prendre pas mal de décisions, qui va avoir plus de connaissances des vents et de la géographie, voilà, qui va avoir une grande connaissance théorique et qui est hyper importante. On y a la cueilleuse et sorcière qui probablement est très importante dans son rôle, mais on perçoit moins son rôle finalement que sa narration. Pour le coup, elle a une grosse place dans la narration dans le livre. Donc on s'y attache et on a beaucoup son point de vue. On a une crow qui porte des choses et qui s'appelle Coriolis et qui est une jolie jeune femme dont à peu près tout le monde est amoureux. Et après, il y a pas mal. Ils sont 25. Hein,
ils sont 25. Il y a 25 personnages.
Un personnage, il est passé dans un crâne qui l'a rendu à moitié végétal, donc ses cheveux c'est de l'herbe.
Comme ça arrive.
Mais oui, comme ça arrive même meilleur. Voilà, donc c'est un petit peu les personnages qui sont là. Là, donc ce qu'on se disait, c'est qu'aujourd'hui, je vous fais la moitié du livre, et après vous aurez du suspense. Voilà, parce que vu comme le livre était difficile à aborder, bah il y a pas de raison que ce soit qu'il y a que moi qui galère. Vous allez vous deviner la suite. Et puis voilà.
C'est une expérience interactive, chers auditeurs, galérer avec Maëlie.
Non mais les gars, au début du bouquin, je suis quand même allée chercher sur Wikipédia pour me motiver. Hein.
Ah non, mais je respecte ça. Hein. Ça a l'air ardu.
C'est ça, là vraiment. Je vous fais un résumé un peu dense, mais dites-vous que c'est plus simple que le bouquin. Non, une fois qu'on est dedans, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'action.
D'accord.
Et on a faux, au fur et à mesure, on s'y laisse vraiment prendre, en fait. Mais il y a plein d'infos à intégrer, et je pense que c'est intéressant de vous décrire un petit peu le monde d'une manière générale. Il y a toujours quelque chose de la recherche de sens, c'est-à-dire, il y a un progrès technique, il y a des bateaux, il y a des trucs qui glissent dans l'air, alors pourquoi toujours continuer à pied? Pourquoi risquer la mort pour quelque chose que personne n'a jamais atteint et dont, bah voilà, que personne n'a jamais vu finalement? Et puis, à quoi ça rime? Et qu'est-ce qu'on ferait? Et quel vœu on réaliserait si on était à la source des vents? C'est un récit qui a des moments qui sont très haletants dans l'action, en même temps avec beaucoup de mots et une recherche de mots assez travaillée. Il y a un travail du jeu de mots qui est excellent. Il y a des aspects philosophiques, il y a de l'action, il y a des vraies questions, il y a aussi beaucoup d'émotions, parce que forcément, on a des gens, ils mourent, puis on a des gens, ils tombent amoureux, puis il y a des gens, ils s'attachent, et puis il y a des gens, ils sont complexes et ambivalents. Ça, c'est ce que je kiffe. Voilà, donc c'est assez riche. On a aussi, bah, justement, un peu ce biais-là de... C'est très travaillé au niveau des mots. Il y a des moments où je pense que l'auteur veut faire... Alors, je sais pas si c'est réfléchi comme ça, mais en tout cas, où il va y avoir des moments un peu plus... pause dans le récit, dans le sens où, fort heureusement pour les personnages, ils ont des moments un peu de répit. Voilà, c'est, il y a des
Tant
moments
mieux pour
où,
eux.
non, mais c'est ça, il y a des moments où ils viennent à moitié morue dans le désert, et il y a des moments où ils arrivent des plaines, et c'est mieux, et on est soulagé pour eux. Il se trouve néanmoins que dans ces moments, genre, ils ont traversé un immense lac où ils ont failli mourir au moins 10 fois de manière particulièrement violente, où il y en a quelques-uns qui sont mourus d'ailleurs. Voilà, ils arrivent dans une ville, on se dit, ouh, ça pourrait être zen, et là, non. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait un défi avec une joute verbale. Et j'aurais bien fini de lire la joute verbale, mais il y avait marqué 50 minutes de lecture dans ce chapitre. J'ai presque fini.
Ok.
Et voilà.
Ok.
Non, il y a des moments où,
Faut savoir.
voilà, il y a des moments où dans les, où c'est très travaillé et où on aurait envie de s'y concentrer, mais il y a des moments où clairement il y a des passages qu'on fait péter.
Écoute, on fait ce qu'il faut.
En fait, ce qu'il faut, c'est un peu les critiques que j'ai lues aussi. Oui, parce que pour motiver, j'ai lu des critiques, évidemment, je suis tombée sur une mauvaise en premier lieu, mais
Ah bah.
c'est forcément ça. De fait, il y a des moments où qu'on saute, on y revient un peu plus tard, parce qu'évidemment, il y a des infos intéressantes au milieu.
Bien sûr.
Si on aime les mots, foncez. Voilà. Mais par exemple, il y a un moment, ils font une joute verbale sur le thème du palindrome, où ils ne parlent qu'en palindrome. Les palindromes, c'est des mots qu'on peut lire dans les deux sens. Genre, ils ont interdiction d'utiliser autre chose que des palindromes.
Eh ben, c'est chouette.
Oui, il y a un moment où ils ne doivent se parler qu'avec des mots comportant la voyelle O, mais la voyelle O pour seule voyelle. Voilà, non mais je veux dire, l'auteur a fait un travail des deux titans.
Ok, oui, je vois à la fois l'aspect
Génial!
un peu de l'orfèvrerie de linguistique et en même temps le côté putain mec, c'est tellement prise de tête pour rien.
C'est ça, laisse-moi avancer, dis-moi juste qui l'a gagné ou qui l'a perdu, arrête!
Je m'en fous,
Et en même temps, tu
tant
vois,
mieux pour
s'il y
eux.
avait juste marqué il gagne le combat lexical, sans description de ça, on serait un peu frustré.
Oui, bien sûr. Il faudrait peut-être juste doser différemment.
Voilà. Non, mais voilà, sinon ça se lit bien. Alors sur un petit peu les premières, je vous décris un peu quelques premières parties du bouquin pour vous mettre en pour vous faire dire si vous avez envie de le lire ou pas. On les voit d'abord évoluer un petit peu dans le désert, donc il y a la mort partout. Voilà, ils se heurtent. Alors c'est pas leur premier, mais nous c'est le premier auquel on est confronté au furvent, où ils vont devoir faire groupe, où ils vont devoir s'attacher, où ils sont projetés dans les airs au-dessus du vent, et en fait ils ont des vraies formations de défense face aux différents vents qui arrivent. On sait que face au furvent, on entend le vent qui va arriver 8 secondes avant l'impact. Donc
C'est pas beaucoup.
oui, non, c'est pas beaucoup, mais du coup tu ne sais pas quel bruit ça fait, mais tu sais que c'est ça. Genre, on a Caracol, bah typiquement le troubadour, qui a prévu ce qui allait arriver, et donc tout le monde s'attache, se sangle les uns aux autres, et l'autre, il court sur la dune. On se demande ce qu'il fait, s'il veut mourir ou quoi. Il va sur la dune, il dit, ceux qui vont mourir, et ceux qui vont mûrir, pas mourir, mûrir, ceux qui vont mûrir te saluent. Il fait une grande révérence et il redescend et il va s'attacher avec les autres. What?
Ben, bien sûr.
Non, mais c'est ça. C'est
D'accord.
ça, mais c'est un groupe qui a du courage. D'ailleurs, ce qui est dit de cette horde, c'est qu'ils n'ont droit de se retourner que pour pisser. Voilà. C'est la seule raison pour laquelle ils
D'accord.
peuvent faire demi-tour. C'était important de le dire. Parce qu'il ne faut pas pisser face au vent. Voilà, c'est très clair.
Ah bah non, c'est selon la sagesse populaire, c'est comme ça qu'on finit les chaussures mouillées.
Exactement. Donc là-dessus, il y a le scribe qui transmet aussi son art, parce qu'ils transmettent leurs arts aussi, forcément, s'il y en a qui meurent au milieu. Les groupes, les hordes, s'appuient sur les écrits des hordes précédentes, en tout cas les écrits des hordes qui ont pu transmettre leurs écrits. Mais donc le scribe a un rôle très important, et il transmet aussi ça, et notamment il écrit chaque type de vent avec des virgules, des espaces, et il décrit comme ça, en fait, pour faire du minimalisme aussi. Il explique comment il va faire ça et comment est-ce qu'il faut écouter le vent et en décrire la subtilité et ce qui n'est faisable en fait qu'en faisant les choses à pied comme ça et pas en étant sur des bateaux. Et il y a l'idée de, il existe 9 types de vent, ce groupe en connaît 6, mais il rencontrera sûrement les 3 autres par la suite, mais il faudra pouvoir l'écouter et les différencier quoi.
D'accord.
Là-dessus après par la suite, donc en plus ils sont tout pétés, il y en a plusieurs qui ont des trucs cassés et tout, donc tu te demandes comment ils continuent à pied avec des jambes cassées et tout. Et
C'est
ils
une
tombent
bonne
sur.
question.
Mais oui, et il tombe sur des crônes. Alors les crônes, c'est une forme de silence épais qui dérive, une présence sans visage ni morphe appropriable, mais dont on pressent physiquement la puissance. Voilà. Concrètement, c'est une bulle de glyphes. Voilà, c'est une bulle de silence sur laquelle il y a des glyphes. Et les crônes sont des trucs qui n'ont pas d'autres objectifs que de vivre, mais qui ont un énorme effet sur ce qui les entoure, mais c'est des effets très variables en fonction du type de crône, ce qui est déterminé par les glyphes qui sont dessus. Et donc potentiellement, t'en as qui vont aspirer toute l'eau autour, t'en as qui vont, et justement, on a un membre qui est passé à travers un crâne et qui depuis a des cheveux en feuille, parce que c'est un crâne qui faisait passer à l'état de nature. Là, il se trouve que le premier crâne dans lequel il rentre, c'est un crâne qui ressoude le calcaire, et donc c'est très pratique puisque il y en a ceux qui ont les os pétés se font ressouder les os. Voilà. Mais potentiellement, il y a des crânes qui sont extrêmement destructeurs et t'as des oiseaux qui y rentrent et qui en ressortent en squelette, quoi.
D'accord.
Mais voilà, c'est des espèces de créatures du vent en fait, qui sont pas, c'est vivant, pas
C'est un peu
vivant.
comme des virus, c'est vivant sans être vivant.
Ouais, c'est ça, mais potentiellement c'est un virus qui fait taille d'un bateau, quoi.
C'est des gros virus.
Voilà, c'est des gros gros virus. Mais il y a un peu ça, et en fait leur seul but, bah, c'est de continuer à vivre avec le type d'énergie dont ils fonctionnent. Donc potentiellement, attendre un qui va fonctionner à l'eau, donc il va absorber tout ce qui contient de l'eau quand il passe. Donc il va absorber l'étang plus toute l'eau à l'intérieur des êtres vivants.
Ouais,
Et,
ça...
voilà. C'est très très particulier. Et il y a aussi toute une question du temps. Et en fait, dans ce bouquin, il y a les aspects qui vont être importants, c'est le vent avec le mouvement qu'on prend plein de caractéristiques différentes, les mots, et voilà, il y a tout un travail autour de la glyphe, ils sont tous représentés par une glyphe, les crônes comportent des glyphes, et on va avoir au fur et à mesure du roman, on va voir petit à petit que les mots sont très importants, que les mots ont un impact et que les mots ont un pouvoir. Donc après là-dessus, ils arrivent à un village où là on voit que le village a été complètement démoli par les vents et tout. Là c'est là où ils perdent des gens qui étaient emprisonnés dans un puits,
D'accord.
où il y en a un, où le prince justement, il voit une dame qui cherche son mari mais qui en même temps le cherche pas parce qu'en fait elle veut pas le voir mort. Donc il rentre dans la maison, il dit qu'il y va avec elle, il rentre dans la maison et il cherche partout et à un moment donné il se met sur une planche et il creuse et en fait il se rend compte qu'il s'est mis sur la planche qui était sur la poitrine du mec, donc que le mec était vivant mais qu'il l'a étouffé en le cherchant.
Ah bah c'est con.
Oui, c'est con. Et voilà, et c'est tout des trucs de, c'est un peu de la dévastation. Et quand tu lis ça, tu te dis, est-ce qu'ils vont pouvoir faire quelque chose pour ce monde qui est quand même bien précaire et qui fait pas très 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 envie, hein, bon sang, la vache.
Ouais, ça vend pas trop du rêve.
Voilà, donc à un moment, ils arrivent à sortir un peu du désert. Ils arrivent dans une prairie toujours venteuse, hein, mais une prairie avec un vent qui se gère. On se demande quand est-ce qu'ils dorment dans cette affaire. Mais ils dorment.
On imagine.
C'est ça. Et ils voient un immense bateau qui freine, pof, par hasard, pile poil devant eux. Et voilà, c'est l'escadre frêle, ça s'appelle. Et c'est un bateau du peuple Fréol. Et donc, en fait, c'est un bateau où ils se rendent compte que la technologie a énormément avancé depuis la dernière fois qu'ils les ont vus. Notre troubadour, justement, a fait partie de cet équipage-là avant, mais il a rejoint la troupe, la Horde, il y a 5 ans. Tout le monde, et on apprend plus de son histoire, c'est-à-dire que lui, c'était quelqu'un qui ne s'attachait pas, qui était partout, qui prenait les anecdotes de tout le monde d'une manière assez géniale, mais qui créait peu, qui s'attachait peu vraiment, et en fait, il a trouvé quelque chose d'assez énorme dans cette horde, mais c'est difficilement compréhensible par ceux qu'il connaissait avant.
D'accord, oui.
Voilà. Donc, il a un peu ce rôle de troubadour pleinement, en fait. Il présente chacun, et on voit cet aspect très célèbre et très mythique de la Horde, où là, ils sont un peu accueillis en héros, tout le monde les acclame, et à la fois, ils sont complètement en décalage, c'est-à-dire que c'est des gens, ils passent leur temps à littéralement se chier dessus quand ils sont dans des tempêtes. C'est ce qu'ils le disent, c'est que le corps reprend le contrôle, et potentiellement, tu te chies dessus. Donc, c'est des gens qui ont pas de manière socialement, qui sont toujours collés les uns aux autres, qui puent, et là, on les fout au milieu de l'immense fête de bateaux où ils ont quelque chose de beaucoup plus distingué, de beaucoup plus sociable, de beaucoup plus travaillé, très mis en scène, en fait. Et ils sont très en décalage par rapport à ça. Alors, le troubadour veut faire un peu une démonstration de force et s'en amuse. Alors, lui, il en joue à mort. Et il dit « Regardez, c'est Ernst, notre combattant protecteur. Il n'y a personne qui lui a tenu plus de 5 minutes. Allez-y à 12 contre 1 avec les armes que vous voulez. » Et puis l'autre, il les démonte. Mais à la fois, il se contrôle, il tue personne. À la fois, était-ce nécessaire pour une démonstration de péter des bras? Voilà, il y a cet aspect complètement décalé où à la fois on est dans l'admiration et à la fois il y a une espèce de tension. À la fois il y a un besoin pour chaque membre de la Horde d'être avec d'autres personnes et enfin de s'extirper. Et on comprend que quand ils ont ces bulles là, et ben en fait ça leur permet de tenir pendant des mois après quand ils sont tout seuls en Horde. À la fois pour certains du groupe, c'est différent de se séparer. C'est-à-dire de pas être en fusion juste eux, et d'aller avec tous les membres du groupe séparément, c'est compliqué. Il y a des espèces de couples qui se forment, des espèces de trucs un peu passionnels et tout. Et il y a un mec au milieu qui interroge un peu en douce, genre il pose des questions, notamment sur le combattant protecteur. Et on comprend qu'il y a un mouvement qui est censé être mythique et qui s'appelle les poursuiveurs. Et on ne sait pas si ces poursuiveurs existent, mais ils seraient envoyés par l'ordre avec un H au début, comme Horde, par l'ordre, qui sont ceux qui forment la Horde et qui lui donnent les instructions. Et on dit beaucoup que la Horde les suit aveuglément et leur obéit bêtement.
Ce qui a l'air d'être un peu le cas, hein, mais soit.
Oui. Mais du coup, cet ordre, potentiellement, il y a des personnes qui ont formé ce groupe des poursuiveurs, dont on ne sait pas vraiment s'ils existent, et qui auraient potentiellement décimé une horde sur deux depuis le commencement, mais bon, il n'y a pas de traces qui en subsistent, forcément.
Forcément, oui.
Puisqu'ils détruisent les carnets en même temps.
Et ce serait quoi leur intérêt à détruire des hordes qu'ils ont plus ou moins formées eux-mêmes?
Et ben justement, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a plusieurs factions concernant le vent dans les sédentaires. En fait, dans la grande capitale qui détermine un peu tout, il y a plusieurs factions. Il y a les Pragmas, leur but, c'est d'atteindre l'extrême amont par tous les moyens, et notamment les moyens technologiques.
Ouais.
Donc forcément, ils sont complètement prisés par les Fréoles, ceux qui ont les bateaux, ils vont favoriser ça. On a les amontistes. Les amontistes, c'est ceux qui vont plutôt valider ce que fait la Horde, ce qui se fait depuis 8 siècles donc, et qui va dire que en fait on l'atteint pas par tous les moyens, mais qui vont poursuivre un petit peu ce qui se fait depuis le départ, quoi. Cette recherche des types de vent et tout. Et puis il y a les chroniens qui eux cherchent des réponses dans les chrones. Voilà, donc plutôt avec les glyphes ou ce genre de choses, on n'en sait pas grand-chose, mais on sait que c'est une faction qui va plutôt en montant à l'heure actuelle.
D'accord.
Et on sait que potentiellement, il y a des traîtres dans tout ça, qui transmettent les infos et qui ont créé les poursuiveurs. Mais tout le monde dit que les poursuiveurs, ça n'existe pas, mais il y a quand même de grosses croyances comme quoi les poursuiveurs existent et comme quoi le mec qui pose plein de questions, en est un. Mystère, on comprend assez rapidement que c'en est un, en fait, qui a incrusté le navire Fréole, a priori quelques mois plus tôt, et qui est incroyablement fort, qui est incroyablement rapide, qui a ce qu'on appelle du vif. C'est quelque chose qui n'est pas rapide, mais qui... ce qu'ils disent comme métaphore, c'est qu'on peut être rapide sans être vif, mais on peut être vif sans être rapide.
D'accord.
Ah, si, c'est compréhensible.
C'est un peu comme l'être rapide, mais c'est pas être rapide. C'est ça.
C'est un peu comme être rapide, mais pas. C'est quelque chose de plus sec, de plus. En fait, c'est de la rapidité qui est un peu hors temps.
Ok.
C'est une temporalité spéciale. Oui. Voilà, mais donc s'ensuit un énorme combat qui est très impressionnant avec le combattant protecteur qui, dans les faits, ne meurt pas, mais qui, en fait, on comprend qu'il a perdu le combat, mais c'est l'autre qui meurt. mais ça lance quelque chose de très où il garde en tête qu'il n'est pas le meilleur, qu'il lui manque quelque chose et qu'il faudrait qu'il reparle à son maître. Son maître, il a genre plus de 80 ans.
Ah, bien sûr.
Mais en fait, il y a deux types de temps. Il y a le temps qui s'écoule dans tes organes et tout. Et puis, le mec a appris une respiration et une temporalité interne spécifique qui fait que ça ralentit le passage du temps en lui. Et que c'est comme s'il en avait 40, en fait.
Bien sûr, pourquoi pas, à ce stade.
Mais oui, pourquoi pas. Et on l'entend à sa respiration. Tintintin.
Ok.
Parallèlement à ce combat, on voit Caracol qui est bah, justement dans ses doutes de est-ce que je suis toujours aussi rapide, aussi bien d'esprit, et qui parle avec un philosophe du bateau qui était son ami déjà avant, et autre qui lui dit bah justement oui tu réponds plus aussi rapidement tes possibilités d'esprit et compagnie, mais par contre t'as ce vif qui fait que avant tu répétais et tu transformais avec beaucoup de génie, maintenant tu crées et maintenant t'as quelque chose de ce vif, de cette intuition de, en fait qui dépasse ce cadre-là de la vitesse et de la rapidité.
Ok.
Voilà. Là-dessus, ils sont toujours sur le bateau, c'est toujours célèbre. Et il y a une espèce de d'école des enfants du bateau, et donc voilà, ils transmettent un peu leur savoir, ce qu'ils font. Mais voilà, c'est un peu les héros locaux, quoi. Et puis ils savent qu'ils vont arriver. Alors il y a le truc de les gens du bateau ont croisé leur père, donc ils les ont croisés quelques mois auparavant, mais ils sont à 4 ans de marche de là, mais en bateau ça va beaucoup plus vite.
Ah oui, apparemment.
Et les pères n'attendent qu'une chose, c'est de revoir leurs enfants en vie, sauf le père du meneur qui est juste une espèce de gros taré psychopathe, on avait compris, qui est haï par...
Oui, l'infanticide nous avait mis sur la piste.
Voilà, c'est peut-être. Mais ils les attendent avec impatience, là où personne n'a jamais réussi à passer. Et donc, notre groupe à 3 ans avance dessus, donc c'est le meilleur.
Mm-hmm.
Ils vont arriver devant un lac que une étendue d'eau, en tout cas vraiment un lac, une espèce d'étendue d'eau marécageuse qu'il faut 4 mois pour traverser, et en plus ils n'ont pas droit au bateau parce qu'il ne faut pas tricher. Ils n'ont pas droit au bateau, donc en fait il faut traverser à la nage, en marchant, avec des sables mouvants, des monstres, des bancs de méduses. Ah oui, parce qu'il y a des méduses qui tombent du ciel et tout.
Ah bah oui, non mais à ce stade, pourquoi pas, hein.
Des bancs de méduses, des îles aux méduses, mm-hmm. Toujours des crônes, donc c'est espèce de trucs de glyphes qui font des trucs, ouais. On ne sait pas trop quoi. Des siphons immenses.
Ah bah oui.
Voilà, donc on sait qu'il y a quelques groupes qui ont traversé ça, mais que potentiellement il n'y en a aucun qui a réchappé.
Bah ouais.
Voilà, et que ceux qui ont, si tu veux pas traverser, bah t'as un an de détour à la marche.
Ah ouais.
Donc ils se disent, allez, enfin après de grands débats, ils se disent, allez, on y va, on ne veut pas perdre du temps sur nos proches, on suit la trace et on va tout droit.
Mais vous aviez 3 ans d'avance, vous pouvez vous permettre de perdre 6 mois.
Ah bah il y en a pas mal dans le groupe qui disent ça, oui. Mmh. De pourquoi mourir pour voilà, mais bon ils y vont quand même. Ils y vont quand même. Le bateau les dépose devant le lac.
Bon courage.
Voilà. Bon courage. Vous allez jamais vous en sortir, mais on vous attend au bout. Voilà. Il y a un peu une remise en cause des gens du bateau. Genre, attends, vous êtes arrivés juste devant nous comme ça par hasard sur un truc immense. Nous, ça fait des siècles qu'on marche sans vous avoir vu et vous débarquez comme ça. Vous vous arrêtez juste avant de nous voir. Vous avez vu nos pères juste avant. Il y a pas un truc un peu tout ça.
Mm-hmm, ouais. Ça fait beaucoup de coïncidences.
Ça fait beaucoup de coïncidences, mais on n'en saura pas plus. Ils arrivent au niveau du lac, donc ils savent qu'ils vont devoir, qu'il y en a la moitié qui savent que dalle nager et tout. Ils savent qu'ils vont devoir passer les 4 mois les pires de leur vie, hein. Qu'ils vont devoir nager, marcher, en faisant attention à tout, en se tenant, bref, que c'est un gros bordel. Et à un moment donné, ils entendent un appel de vent spécifique et ils voient apparaître Tejerka. Tejerka qui est le maître de notre combattant protecteur.
Ah, trop bien. Son maître Shifu.
Mais grave. Mais c'est exactement ça. En plus, il l'appelle Macaque, s'il te plaît, je me serais cru dans Dragon Ball Z.
Ouais.
Et c'est un peu son maître Shifu qui est genre, ouais, voilà, c'est ça, le mec qui a 40 ans, mais dans son corps, il en a 150, et qui fait tout, et qui a une maîtrise du vent, on l'entend respirer d'une manière spécifique, et dans la poursuite, dans le mouvement des poursuiveurs, on parlait d'un truc incroyable qui s'appelle le corroyeur, et contre qui tout le monde a perdu, parce que c'est à la fois complètement débile et brillant, mais qu'on sait pas ce que c'est ou qui c'est. Ou... En fait, on comprend que c'est une espèce de crône qui est hyper puissant. Et s'ensuit à une espèce d'immense, immense combat où en fait, ce crône, son truc, c'est qu'il tue les gens, mais les gens se tuent eux-mêmes de fatigue, de lutte contre ce truc-là.
Ok.
Voilà. et qu'en fait ils captent l'énergie en chacun, qu'ils détectent les énergies, donc ce qui fait qu'ils doivent se séparer, mais que c'est compliqué de se séparer parce qu'ils ont l'habitude de fonctionner en groupir. Et en fait on comprend au bout d'un moment que Tejerka, donc le maître, je sais pas si c'est clair, hein, c'était compliqué déjà dans le livre, mais que Tejerka en fait avait déjà été pris dans ce crâne et que de par sa respiration particulière et sa maîtrise des mots et des glyphes, en fait il a fait en sorte d'étirer le temps de manière à ce que les autres puissent se barrer.
D'accord.
Bon, il se barre moins un.
Bon, oui, ok.
C'est-à-dire qu'il y en a, il est mort au passage. Là-dessus, ils continuent, ils continuent, ils continuent. Et ils arrivent à une tour qui n'était pas là avant, mais une immense tour avec des matériaux qui ne sont pas du coin. Mais ils s'arrêtent à la tour.
Ouais.
Et ils disent, et sur la tour, il y a marqué un truc qui déchiffre. Et sur la tour, il y a marqué...
Bonjour.
Non, même pas, il y a marqué « Ne jamais dire fontaine ». Donc il y a un mec qui dit « Hey, il y a marqué « Ne jamais dire fontaine ». » Et il se met à vomir de l'eau claire. À peu près par tous les orifices, littéralement par tous les orifices, hein. Vraiment tous les orifices possibles. Et les autres demandent ce qui arrive, et ils se disent que c'est peut-être ça. Il y en a un qui dit quoi, faut pas dire fontaine. Non, sérieux. Non, ça,
tu l'as fait exprès, toi, Gérard. C'est ta faute.
Et dans le livre, il y a marqué. On aurait bien ri à la blague et à l'absurdité du truc, mais quand même, ça faisait chier, quoi. Enfin, c'est pas dit ça faisait chier, mais ouais. On aurait bien ri à l'absurdité du truc, mais c'était un peu problématique. Ils sont en train de se dessécher, les gars. En plus, voilà, les gars pataugent dans une espèce de marécage puant. Ils dorment dans leur duvet mouillé et moisi depuis il y a 2 mois. Et je veux dire, il y a de l'eau de source propre qui coule de leurs potes. Je veux dire, il y avait peut-être un truc à vendre. Bon, d'accord. Non. Donc, ils essaient de boucher les trous. Et puis, non, vraiment. Ils essaient de boucher les trous de leurs potes. Il y a l'eau qui sort par la peau.
Bah oui, non, mais tant pis, ils sont morts. C'est, voilà, hein, achève-les, ça ira plus.
Et finalement, ils essaient de trouver l'inverse de la fontaine. Parce qu'en fait, ils comprennent que le fait de dire ce mot a fait venir une certaine sonorité qui a invoqué un mouvement du vent, justement, un des fameux crônes, uh-huh, dans la gorge des gars, et que du coup ça se nourrit d'eau, donc ça leur fait enlever toute l'eau de leur corps.
Uh-huh.
Et donc ils cherchent quelque chose pour faire sortir ce crône et l'inverser, et donc en fait il faut prononcer le mot, la lettre O, et ça marche. Donc après ils passent plein de temps sur l'île à dire fontaine O, fontaine O. Enfin, un petit moment de répit comme ça, ils auront un peu de repos accordé quand même après ça.
Ok.
Après, ils continuent. Et là, ils sentent un petit courant d'eau froide. Ils se disent, si c'est ça, on est mort. C'est ça, putain, un siphon, les gars. Il y a un espèce d'immense siphon.
Mm-hmm.
Dedans, en plus, non seulement ils sont tous à deux doigts de mourir, mais en plus, dedans, ils voient leur avenir. Mais genre, leur pire crainte.
Oh, mon Dieu.
Genre, ouais. Et puis en plus ça révèle les sentiments de chacun, parce que leur pire crainte, ça ne concerne pas forcément eux, ça peut concerner la personne qu'ils aiment.
Dieu, toutes ces relations.
Mais oui, genre l'homme arbre risque de se transformer en arbre. Hey, s'il laisse trop le végétal en nuit, lui. Ce genre de choses. Voilà, c'est les uns voient leurs proches du groupe mourir, morts, tout ça.
Ok.
Donc c'est un peu l'angoisse de ça.
Mm-hmm.
Il y en a un qui meurt dans le tas, qui se fait emporter. Il y en a plusieurs qui font à deux doigts de se faire emporter, mais qui arrivent à se faire rattraper une extrémiste. Mais c'est une espèce de long combat contre la flotte. Et là-dessus, il y a des membres du groupe où, en fait, c'est quand même un groupe soudé. Donc, à la fois, faut continuer envers et contre tout. À la fois, t'as un moment donné où, quand tu viens de perdre ton chéri en toute discrétion, et où t'as perdu ton frère jumeau et tout, il y a potentiellement des gens en dépression dans le groupe, les gars.
Bah oui, c'est ça. J'espère qu'ils ont un psy qui voyage avec eux.
Alors, ils ont une soigneuse psy qui voyage avec eux, mais là, elle ne peut plus rien. C'est, je veux dire, ça fait 2 mois et demi qui nage dans des marécages. La nana, elle vient de perdre son chéri.
Ah, c'est elle.
Et son pote. Non, c'est pas elle, mais l'autre nana, elle vient de perdre son chéri et son pote, et elle a le talon fracturé et elle doit marcher dans des marécages.
Tant pis, hein, je rentre chez moi. C'est... Écoutez, les mecs, voilà, j'ai essayé, hein, cœur chez vous, et puis à plus.
Bah, c'est exactement ce qu'elle a dit.
Logique.
Voilà. Alors, on est au milieu d'un marécage, c'est un peu compliqué.
Oui.
Faut bien le dire. Mais c'est exactement ce qu'elle a dit. Et c'est très compliqué et c'est très mal vécu par tous les autres, parce qu'en fait, le truc, c'est que t'as le droit de chialer, t'as le droit de pleurer, t'as le droit de vomir et t'as le droit de te chier dessus. Mais tu n'abandonnes pas l'espoir, tu dois avoir la niaque. Il y a marqué niaque dans le livre.
Ouais, fuck la niaque au bout d'un moment.
Non, mais c'est ça. Donc, t'as le chef qui a une empathie légendaire, comme on le disait,
Ouais.
qui l'envoie chier une ou deux fois et qui lui dit, vas-y, relève-toi! Et qui dit, ouais, c'est bien sympa. Et qui dit au mec, ouais, c'est bien sympa de la démonter de temps en temps et tout. Il vous faut quoi pour la porter et qu'elle vous fasse une pipe? C'est ce qu'ils disent, hein. C'est ce qu'il y a marqué dans le livre. C'est pas moi qui suis vulgaire. Qui se relaie pour l'aider, mais ça marche pas non plus parce que elle est en dépression.
Bah
C'est fini là.
oui, et puis à raison, hein, c'est.
Voilà. Non, mais c'est clair. Les principaux membres du groupe ont la carte du monde tatouée sur leur colonne vertébrale et ils ont chacun le glyphe de leur fonction tatoué sur l'épaule et c'est le meneur qui leur tatoue et qui peut leur enlever les déchoirs pour toujours et leur enlever leur honneur. Et il s'apprête à faire ça et il est arrêté par les autres parce que quand même faut un peu de concertation pour ces conneries.
Quand même.
Voilà, et donc elle est à la traîne du groupe avec deux trois, mais elle traîne tout le groupe et tout. Et là, que voit-elle?
Que voit-elle?
Des loutres. Des loutres.
Des loutres?
Oui, des loutres. Des loutres qui sont jolies et qui suent dans l'eau
Le
et
petit
tout.
mammifère choupi.
Oui, les petits mammifères choupis, exactement. Elle devient copine avec les loutres.
Les loutres guérissent donc la dépression et le trauma, mais quel bonheur!
Mais c'est clair! Et donc, voilà, donc elle se fait un peu traîner par les loutres, mais il faut pas que le meneur le voie parce que sinon, ce serait pire, c'est la triche. Elle devient super copine avec une loutre et tout.
C'est ma loutre d'assistance.
Non, mais exactement! Exactement. Et on comprend quand il s'apprête à sortir du lac, il y a le troubadour qui dit, il faudrait qu'on en parle. On en a deux qui sont morts, trois qui sont morts, et c'est un peu triste. Et en fait, je pense qu'ils sont autour de nous. Oui, c'est vrai, ils nous ont jamais quittés. Non, sans déconner, je pense vraiment qu'ils sont autour de nous, en fait. Genre, il retourne la loutre, et sur son ventre, il y a la glyphe du mec qui était mort et qui était le chéri de la nana.
What?
Et en fait, leur énergie vitale a été mélangée dans le siphon. Du coup, ça s'est mélangé à la loutre. Voilà, il y en a un, son énergie vitale a été mélangée à celle de son jumeau. Et le chef nous dit, oui, d'ailleurs, moi, quand mon frère est mort devant moi, il y a son énergie vitale qui s'est mêlée, enfin, son vif qui s'est mêlé à
Ah
moi.
ben, t'aurais pu le dire.
Voilà. Bah, du coup, on l'apprend et ça ouvre à une nouvelle forme d'intimité dans le groupe. La puissance du vif. C'est très drôle parce que du coup, il y a aussi le terme de vif dans l'Assassin Royal, mais c'est pas du tout la même chose, mais il y a aussi quelque chose de. Voilà.
Ok.
C'est de très puissant et de. Voilà, les autres sont autour de nous et on sait pas trop ce qu'on fait de cette information. Peut-être on va en faire quelque chose, mais là, on sait pas quoi et il se passera ce qu'il doit se passer, mais nous devons faire front ensemble. Pour poursuivre l'objectif, mais sachant que tout le monde n'a plus forcément envie et qu'ils arrivent dans une ville où ils sont pas du tout accueillis comme prévu, parce que normalement ils sont un peu accueillis en héros, que le bateau qui devait les attendre à la sortie au bout de 4 mois, bah là ils sont arrivés au bout de 4 mois et 4 jours, le bateau s'est barré, sérieux. Sérieux,
Ah
les gars.
bah, après l'heure, c'est plus l'heure,
Alors c'est plus leur après, c'est un
hein.
navire, quoi. Ils arrivent dans une ville et la ville doit leur ouvrir une écluse pour passer et la ville demande des contreparties. Et vous verrez la suite la prochaine fois, les gars. Que va-t-il se passer? Le groupe va-t-il continuer soudé?
là là.
Pourront-ils atteindre l'extrême amont? Y a-t-il un extrême amont?
Y a-t-il seulement un extrême amont? Putain, c'est vrai ça. Si ça se trouve, il n'y en a pas. Les mecs, ils vont arriver au bout. Mais attends, attends, attends. Attends. Au niveau géographique, leur terre, elle est plate, qui est un point d'où vient le vent, ou c'est genre sur une montagne? Comment ça se passe? Parce que sur une
Et
terre
bah,
ronde.
j'ai l'impression, moi, que c'est une terre, de ce qu'ils en disent, hein, c'est une terre plate, j'ai l'impression.
D'accord, ok, ouais.
Voilà, mais sur cette terre plate, enfin, plate genre linéaire, quoi, par contre, pas une sphère comme nous,
Ouais.
mais en tout cas, il y a des montagnes, il y a des fleuves, il y a des machins, quoi.
Oui, c'est pas une assiette, mais un disque.
Voilà, c'est ça.
Ok. Ah bah putain.
Ouais, non mais c'est ça, c'est on sait pas qui va continuer ou pas, s'il y en a qui trouvent qu'ils ont vu le bout avec ce groupe, si ils y voient encore du sens ou pas, s'ils vont être poursuivis, si voilà, c'est un beau merdier.
Ça a l'air. Franchement, quand tu m'as raconté le truc avec les loutres, je sais que moi, en tant que lecteur, c'est là que j'aurais laissé tomber. Le non mais arrête, tu vas trop loin dans ton délire, Damasio. Je repose le livre. Et puis, tu sais quoi, fais ton truc. Voilà, moi, ça me concerne
Sais
plus.
que dans la lecture, c'était super cool, genre, t'as une espèce de truc hyper badass tout du long, t'as des bancs de méduses et tout, et là, t'as genre, au milieu nulle part, mais genre, en plus, c'est tellement incongru que même eux, ils se marrent, genre, hein? Il y a des loutres qui sont en train de jouer là? Ok, du calme!
Oui, pourquoi pas, hein.
Voilà, c'est que faire pour lutter contre la dépression qu'un petit mammifère à poil long? À
C'est
poil moyen.
ouais, pour le moyen. C'est ok, chers auditeurs, code promo loutre, achetez une loutre, parrainez une loutre.
C'est ça. Il y en a dans ma maison, il y en a un dans ma maison qui passe sa journée à regarder des loutres mignonnes sur Instagram. Et ben...
Ouais, en même temps, les loutres, c'est particulièrement irrésistible.
C'est ça, ça et les choupissons. Les choupissons, c'est le bébé du hérisson. Ça s'appelle vraiment un choupisson.
Je te crois.
Non, mais c'est vrai.
Oui, bien sûr, Maëlie, oui, tout à fait.
Mais c'est vrai.
Oui, et parfois, ils jouent avec des vers des sables.
C'est pas très gentil, Julie.
Non, c'est vrai, ça s'appelle vraiment un choupisson, un bébé hérisson.
Oui. Mais oui. Mais je t'accorde qu'on pourrait l'inventer.
Ça n'a aucun sens, il y a un naturaliste qui était bourré.
Alors, d'après ce qu'a pu en dire Jonathan, en fait, choupisson est le terme générique afin de désigner le bébé de plein d'espèces de hérissons. Parce qu'il y a tellement d'espèces de hérissons qui sont fait un terme générique pour désigner leur bébé. Oui, mais les gars, on a aussi un terme générique pour désigner le hérisson. Qui savait qu'il y avait 50 espèces de hérissons?
Je savais qu'il y en avait plusieurs, je savais pas qu'il y en avait autant. J'avoue que...
Alors 50 est un nom du au pif, mais en tout cas, hérisson, choupisson.
Il y en a plein. D'accord, ok, ben c'est bon à savoir.
Voilà, nous allons vous laisser, chers lecteurs, faire vos pronostics.
Ah oui. Alors, je vais en faire un rapide. Ils vont arriver à l'extrême amont.
Ouais.
Ils seront bien sûr plus que genre 4. Et ils vont trouver la source, mais nous, lecteurs, on va pas nous le décrire et ça va finir sur une sorte de... Oh, ils furent tous frappés de choc et comprirent que toute leur vie avait du sens et... Débrouille-toi.
Utcha.
Voilà, c'est mon pronostic. Si je gagne... Tu dois me donner des mandarines.
Aujourd'hui, j'ai du stock.
Toi, t'as un petit pronostic rapide, là, comme ça ?
J'ai un petit pronostic. Écoute, là, du coup, dans ce récit-là, on est à peu près à la moitié du livre. Il y a un moment où il y en a une, quand elle voit son futur, elle voit qu'elle accouche d'une espèce de sphère, que c'est pas un bébé, mais qu'elle a pas mal, mais que c'est bizarre, mais qu'elle est contente et qu'elle a l'impression d'avoir la réponse à toutes ses questions.
Je suis de nouveau en train de me tenir le front, chers auditeurs. Ok, ok.
Voilà, donc est-ce qu'elle a fait ça en extrême amont? Moi j'aimerais bien, en tant que petite émotive, j'aimerais bien qu'ils retrouvent leurs parents et leurs enfants, parce qu'on leur enlève aussi leurs enfants pour les
aider. Ah bah oui, bien sûr.
Bah oui. Je sais pas, j'imagine... Non, mais j'imagine bien un truc un peu comme toi, de... À la fois... Enfin là, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est mal barré pour qu'ils continuent tous. Est-ce qu'ils vont réussir à tous se continuer, ou est-ce qu'ils vont tous mourir les uns après les autres, ou est-ce qu'ils vont s'entretuer, ou est-ce qu'il y en a qui vont se barrer au milieu? Mais il y a une espèce de truc qui commence à devenir un peu de la folie, en fait. Voilà. Est-ce qu'ils vont réussir à passer? Est-ce qu'on va avoir une réponse? Est-ce qu'en fait, ça n'avait pas de sens du tout, tout ça? Et que c'est pourri?
Il y a aussi ça.
Voilà. Il y a le truc de soit ça n'a pas de sens, soit ça a un méga sens, mais on ne le sait pas, parce que j'imagine mal une morale bateau au milieu de tout ça, parce que j'ai l'impression que les leçons, elles sont plus disséminées tout du long.
C'est ça, ouais. Un gros happy ending avec « Ah, ils y arrivent, et ils guérissent tout, et tout le monde va bien, et la planète est contente. » Ça a l'air trop facile.
Non, mais c'est ça. Soit c'est genre, tu sais, le truc un peu décevant à la Thanatonaute. T'avais lu de Bernard Weber?
Je crois que je l'avais lu, ouais.
Et donc il y avait le Thanatonaute où on suit genre les gens sur des livres et des livres où c'est passionnant, c'est une super intrigue, et à la fin le héros c'est le lecteur.
Oui, mais c'était après genre 7 tomes et oui, c'était complètement qu'est-ce que t'as encore foutu Bernard Werber, quoi.
Oui. Non mais c'est ça, et du coup je me dis on va avoir une connerie du genre à la fin. Peut-être. Après, du coup, dans ce qu'il disait, c'est qu'à la base, c'était censé être une trilogie, mais que finalement, il a une flemme. Donc, est-ce qu'on va avoir une vraie réponse à la fin, ou est-ce qu'on va avoir un truc en suspens?
Très possible aussi.
Les gars, mettez-nous vos pronostics, que vous ayez lu ou pas le livre. Si vous l'avez lu, bah mettez-nous un truc un peu au milieu, mettez-nous pas la réponse, les gars.
Ouais, c'est ça, non, spoilez pas, s'il vous plaît, mais n'hésitez pas sur Facebook, sur Instagram, partout. Dites-nous ce que vous envisagez, et puis, je sais pas... on postera certainement la deuxième partie, pas 2 semaines après, on essaiera de le faire à 10 jours ou à 1 semaine, pour pas que vous deviez attendre 2 semaines comme des tristes personnes.
On n'est pas comme ça.
Non, c'est pas notre genre. Enfin, c'est peut-être le genre de Miley, mais c'est pas mon genre.
Non, que dalle, je suis pas sadique sur les bouquins. Franchement, j'ai réussi à me motiver à le lire il y a très peu de temps, genre hier. Bon, il y avait Noël entre-temps.
Oui, c'est ça, il y a eu Noël, il y a eu des trucs à cuisiner, des trucs à manger, des tas de trucs à faire.
C'est ça, non, je l'ai lancé un peu avant, mais vraiment. Mais une fois que t'es lancé dedans, moi je peux pas m'arrêter de le lire, en fait. Donc concrètement, je l'ai fini ce soir.
Ah, bah voilà, parfait. Tu pourras me dire.
Ça, non, je te dirai pas, tu sauras au prochain épisode. Ah. Tu peux brosser sur tes pronostics et on se fait un petit debuff.
on pourra faire ça. Est-ce que c'est le moment de remercier les gens qui nous ont envoyé des trucs gentils.
Grave.
T'en lis un, j'en lis un.
Ouais, ça marche. Attends, je ressors ma petite liste.
de souci. Donc, c'est des gens qui, soit nous ont fait des retours très gentils, soit nous ont fait des suggestions de bouquins. Et dans le cas de... je ne sais plus qui, donc je ne vais pas dire de conneries, mais il y a une personne en particulier dans la liste qui nous a... enfin, qui m'a motivée à résoudre enfin le putain de problème de Apple Podcast pour qu'on soit disponible sur Apple Podcast. Il n'aura jamais fallu que 2 mois et demi.
Écoute, et maintenant, on y est.
Maintenant, on y est.
Dire, on peut saluer la motivation de Julie au quotidien qui fait quand même toute l'organisation de ce podcast.
Oh, je ne saurais rien faire sans Maïk.
Oh là là, moi je débarque toutes les 2 semaines pour me dire des bêtises, mais...
le meilleur job.
C'est ça, mais on a le leader organisationnel de ce duo.
Oh, c'est trop d'honneur. Ok, donc merci à Angélique qui nous a écrit des super messages sur Instagram.
Merci beaucoup à Val Fruchard.
Qui peut-être dans un futur proche pourrait être l'un de nos invités.
Pardon.
Merci à Cyril Germain.
Merci à Alice des Lectures d'Alice.
Excellent nom d'Instagram. Merci à Isabelle Leblon.
Merci à Arc Cantael qui nous suit fidèlement sur Instagram tout le temps.
Tout à fait, c'est l'une des vraies. Merci à Amandine Laruelle.
Merci à Guylaine Matati qui nous a fait une publicité au repas de Noël trop magnifique.
Et qui est très active sur les réseaux sociaux. Merci Guylaine. Et merci enfin à Manon de Bookin Lecture. Si vous aussi, chers auditeurs, vous aimeriez nous faire des retours, des suggestions, ben on les prend avec grand plaisir. Et si vous aimeriez aider à soutenir le podcast, n'oubliez pas que la meilleure manière de le faire, ça reste de faire ce qu'a fait la tante de Maïlie, c'est-à-dire en parler à quelqu'un.
C'est ça, merci à Charlie et Jonathan de nous soutenir au quotidien et de nous encourager d'aimer nos publications Facebook.
Religieusement.
C'est clair. De faire des petits commentaires et de nous trouver très créatifs, tout ça. Merci.
Tout à fait. Merci à eux pour leur soutien. Et puis merci à toi, Maïlie, pour ta présence.
Voilà, vache, en fait, un truc. Ah oui, mais c'est la fin de l'année, nous.
Et pour les auditeurs, ça, c'est le début de l'année, en fait. Eh, hey, d'ailleurs, chers auditeurs, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Grave. Voilà, ça plein de bonnes choses. Plein de chocolat, tout ça.
C'est ça. J'espère que vous serez heureux de plein de trucs et que vous trouverez la paix. Quoi que ce soit.
Soyez heureux, épanouis, faites des bonnes lectures et des bonnes rencontres, le tout avec un bon thé, et on est dans le concept.
Et portez un plaid, n'oubliez pas. Ça tient chaud.
Ça se pose comme question, ça.
C'est vrai, c'était automatique. As-tu autre chose à ajouter, Maïlie?
De mon côté, c'est bon.
Bah écoute, je crois avoir fait le tour, moi aussi. Du coup, chers auditeurs, on vous retrouve dans le prochain épisode pour avoir la suite et la fin, on espère, de cette histoire. Et donc, du coup, le mois de janvier sera un mois à 3 épisodes.
Tadam.
La classe, la grande classe. Chers auditeurs, Maïlie, merci pour tout. Bisous. Bonne fin de journée.
Bisous. Et bonsoir.
Bonsoir. Vas-y, refais-le avec la voix de Pierre Belmar.
Et bonsoir.